Bonjour à tout le monde. Voilà quelques chiffres sur l'écran qui correspondent à notre absence. 10 semaines. Ça fait longtemps. 10 semaines, on était parti en Écosse. 25 réunions, prédications en anglais, s'il vous plaît, avec un accent écossais, ça craint. Donc ce matin, il y aura des mots écossais qui vont sortir de temps en temps, donc si ça arrive, levez le doigt et quelqu'un va traduire. 9000 conversions. Malheureusement, il n'y a eu que 8999 conversions. 9000 kilomètres. 12. Le nombre de livres que nous avons pu lire pendant ce temps, Brigitte et moi. 15. Brigitte m'a dit de ne pas le dire, mais le nombre de kilos que Brigitte a pris pendant... Non, pardon. Non, non. C'est faux. Elle n'a pas pris un seul kilo, rien. Et point d'interrogation, bon, combien de pâtisseries est-ce qu'on a mangé par jour? Vous allez chez des Écossais et c'est des gâteaux. Et des bons gâteaux. Combien de semaines sans pluie? 6 semaines. C'est inouï. Des amis non chrétiens sont venus nous voir de Lyon. Ils ont passé une semaine et du ciel bleu pendant une semaine. Et on les a revus avant-hier et ils ont dit, des amis non chrétiens, on remercie Dieu pour le beau temps qu'on a eu pendant nos vacances en Écosse. Et pendant qu'on était là-bas, bien sûr, on a passé du temps avec notre famille, et notamment notre fille Fiona, son mari Thierry et leur petite Aliana. Et beaucoup ont prié pour Thierry parce qu'il avait une tuberculose des os. Et pendant 6 mois, il était sous 3 antibiotiques. Et les voilà. Il a été déclaré plus ou moins guéri au mois de février. Il n'a plus de traitement. Et il a trouvé un travail. Donc merci pour vos prières pour eux. Passons aux choses sérieuses, même si ce que je viens de dire est sérieux. Hébreux, chapitre 4. Il y a un petit souci sur cet écran là-haut, mais bon, c'est pas grave. Hébreux 4, versets 14, 15 et 16. Nous poursuivons notre série dans l'Épître aux Hébreux. Et pour marquer la page de ma Bible, j'ai une petite carte avec une vache écossaise. Hébreux 4, versets 14, 15 et 16. Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. 3 versets. Dans ces 3 versets, il y a 2 thèmes importants, 2 thèmes qui reviennent. Il y a d'abord un rappel. Il y a ensuite un appel. Rien de compliqué. Un rappel et un appel. Premièrement, un rappel. Qui est Jésus selon ce texte? On a une petite description ou définition de la personne et de l'œuvre de Jésus. Et puis il y a un appel. Un appel à prier. Prier, prier sans cesse. Un appel et un rappel. Pensons d'abord donc au rappel. Qui est Jésus? Il est décrit ici comme un souverain grand prêtre. Bien sûr, c'est un terme qui vient de l'Ancien Testament, de l'ancienne alliance, comme on dit, où le grand prêtre avait le droit d'offrir des sacrifices lors des cultes au temple. Et Jésus ici est décrit comme le grand prêtre, le souverain grand prêtre. Il s'agit d'un thème qui revient plusieurs fois dans cette épître écrite aux Hébreux. Et dans ce texte, nous vous apprenons plusieurs choses au sujet de Jésus. D'abord, il est efficace. Il est efficace. Il a traversé le ciel. Il a fait un aller. Il a fait un retour. Il a traversé le ciel pour venir ici et il est reparti. Et il a pu dire sur la croix, tout est accompli. Mission accomplie. On lit aussi que Jésus est capable de compatir à nos faiblesses. C'est une des choses les plus précieuses que je trouve dans le Nouveau Testament. Il nous connaît. Il nous comprend. Il était capable d'offrir un sacrifice pour le péché, sa propre vie. Et on apprend aussi que Jésus est compatissant. Il compatit à nos faiblesses. Il ne va jamais nous renvoyer, nous balayer d'un revers de la main. Quand on vient à Jésus, il est prêt à nous écouter, si nous sommes prêts à l'écouter, lui. On lit aussi dans ce texte que Jésus est parfait. Il est pur. Il est saint. Sans péché. Personne ici ce matin ne me dit la même chose. Jésus, pur, saint, parfait. Ailleurs dans le Nouveau Testament, nous lisons « Jésus n'a pas connu le péché » de Corinthiens 5. Jésus n'a pas commis de péché. 1 Pierre 2. Il n'y a point en lui de péché. 1 Jean 3. Selon Pilate, son juge, cet homme est innocent. Selon Judas, le traître, j'ai trahi du sang innocent. Jésus était parfait. Et on comprend aussi, on lit dans ce texte, il est toujours prêt à m'écouter. Prêt à me secourir et toujours au bon moment. Le timing de Jésus est toujours parfait. Jamais trop tôt, jamais trop tard. Il nous demande de lui faire confiance pour son timing. Non pas pour notre timing, pour notre agenda, pour notre planning. Il a son agenda et nous devons nous plier à son agenda. Un rappel donc, un rappel concernant la personne et l'œuvre de Jésus. Maintenant, deuxième lieu, un appel. Un appel à prier. Un appel, je dirais, à prier sans cesse. Étant donné ce que Jésus a fait, étant donné qui il est, nous devons, nous pouvons nous approcher du trône de la grâce. C'est-à-dire, nous avons le droit, nous avons le privilège de prier Dieu, nous approcher du trône de la grâce. Mais la question qui se pose, comment doit-on s'approcher du trône de la grâce? Comment doit-on s'approcher de Dieu pour lui parler? Il y a plusieurs conditions. D'abord, avec confiance, avec foi, avec espérance. Faire confiance quand on prie. Avoir la certitude d'être entendu. Deuxièmement, quand on doit prier aussi avec humilité. Il est le potier, nous ne sommes que l'argile. L'humilité est dans une attitude d'attente. Et quand on prie aussi, on doit prier avec la foi que nous professons, pour citer ce texte. C'est-à-dire avec une foi biblique. Non pas une foi dans des traditions humaines ou dans l'histoire de l'Église ou dans les paroles de quiconque, mais une foi qui est solidement fondée sur la parole de Dieu. C'est comme ça qu'il faut prier, parmi d'autres choses. Dans Hébreux 10, nous avons une exhortation semblable où il est écrit « Approchons-nous donc ». Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience. C'est comme ça qu'il faut prier. Mais on peut se poser une autre question. Mais pourquoi prier? Pourquoi s'approcher du trône de la grâce? Eh bien, la réponse est simple comme A, B, C. A comme accueil, B comme besoin, C comme cœur. C'est-à-dire l'accueil qui nous est réservé, les besoins qu'on peut exposer, qu'on peut faire connaître à notre Dieu, et c'est comme le cœur qui nous aime, le cœur de notre bon Père céleste. Pensons à l'accueil qui nous est réservé. Jésus promet dans les évangiles, « Si quelqu'un vient à moi, je ne le mettrai pas dehors. » Il nous accueille. Si quelqu'un vient au Seigneur dans la prière, il est prêt à nous écouter. Jésus est appelé l'auteur de notre foi. Jésus nous comprend et il est rempli d'amour et de compassion. Et il nous accueille à bras ouverts. À bras ouverts. Parfois on chante le psaume 116, « J'aime l'Éternel car il entend ma voix, il a penché son oreille vers moi. » Nous aimons le Seigneur parce qu'il tend son oreille vers nous, il tend sa main vers nous pour nous inviter à venir y lui parler. Devant le trône, nous trouvons miséricorde, grâce, et son secours, comme je disais tout à l'heure, est toujours au bon moment, au moment favorable. L'accueil qui nous est réservé. Deuxièmement, les besoins qu'on peut exposer. J'ai une liste de 12 qui vont apparaître sur l'écran. Quels sont nos besoins? D'abord, on a besoin de son aide. Si on ne demande pas l'aide du Seigneur tous les jours, je ne sais pas dans quel état on sera le soir. On a besoin de l'aide de Dieu. On a besoin de son soutien dans nos faiblesses, dans mes faiblesses. On a tous des faiblesses. On a besoin de soutien de Dieu. Un autre besoin, de pardon. Seigneur, pardonne-moi ma parole de ce matin, ce que j'ai fait hier soir. Vous savez, quand on se convertit, on demande pardon et on est pardonné de nos péchés. Mais tous les jours, on a besoin d'être purifié, d'être pardonné. Et quand on prie, on peut demander pardon. Et on peut demander de l'amour. Seigneur, ce collègue au boulot, je le déteste. Seigneur, aide-moi à l'aimer. Seigneur, la personne assise devant moi au culte ce matin, je ne peux pas supporter. Seigneur, aide-moi à l'aimer. Et il y a d'autres exemples qu'on peut donner. Patience. Seigneur, j'ai besoin de la patience. La patience avec mes enfants. La patience avec mes parents. La patience avec mes petits-enfants. Avec mes voisins bruyants. Avec mes 23 coqs chez les voisins qui m'ont réveillé ce matin à 5 heures. Seigneur, patience. Seigneur, j'ai besoin de la sagesse. La sagesse dans le quotidien, dans les choses terre à terre. Ô Seigneur, pour la sagesse de Salomon. Seigneur, j'ai besoin de ta paix. La paix du Seigneur. Mon âme est troublée. Je dors mal. Les nuits sont mauvaises. J'ai du mal à dormir. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi ta paix. On en a besoin. Jésus n'est-il pas appelé le prince de la paix? Le Saint-Esprit, le symbole, c'est la colombe de la paix. Seigneur, j'ai besoin de ta force. Ta force pour lutter contre la tentation. Ta force pour lutter contre le tentateur. La force pour faire ta volonté. Vous savez, très souvent, un chrétien sait ce que Dieu veut qu'il fasse. Mais souvent, il ne veut pas faire ce que Dieu veut qu'il fasse. On prie, Seigneur, montre-moi ta volonté. Mais je connais sa volonté. Mais je ne veux pas l'accepter. Je veux faire autre chose. On a besoin de prier, Seigneur, donne-moi la force pour faire ce que toi, tu veux. Discernement. On a des décisions à prendre, des choix à faire. Seigneur, conduis-moi pour que je puisse discerner ce que tu veux que je fasse aujourd'hui, demain, la semaine prochaine, l'année prochaine. La direction, c'est un peu la cousine germaine du discernement. Comment agir dans telle ou telle situation avec telle personne? Seigneur, dirige-moi pour que je ne me trompe pas. Confessez nos péchés. Je viens de lire un livre qui s'appelle « Le péché dont personne ne parle ». Deux points, la jalousie. Hyper intéressant. Seigneur, je suis jaloux de telle personne, de tel voisin, de tel collègue, de telle personne dans la famille. Confessons nos jalousies, notre vocabulaire qui laisse à désirer, nos crises de colère, nos mauvaises habitudes, nos addictions. Confessons et demandez au Seigneur de nous pardonner et de nous aider à être plus que vainqueurs et assurance. Parfois, on a besoin d'être rassuré dans la présence de Dieu. Parfois, on est troublé. Parfois, on n'a pas besoin de dire grand-chose quand on vient vers Dieu. On peut juste penser à son amour, à des textes bibliques qui nous rassurent. Parce qu'on est dans un monde anti-Dieu, anti-chrétien, et on a besoin d'être rassuré que Dieu est là et qu'il nous aime. Être rassuré quand on a peur, être rassuré face à un avenir incertain, face à un avenir où on n'a pas beaucoup de visibilité. Seigneur, rassure-moi. Seigneur, viens t'approcher de moi. B, les besoins qu'on peut exposer. Et C, le cœur qui nous aime. Le cœur de Dieu, un cœur rempli d'amour, rempli de bonté, rempli de fidélité, rempli de bienveillance. Et on peut rallonger la liste. Son cœur est rempli de tant de choses parce qu'il nous aime. Donc vous voyez, tout ceci nous rappelle l'importance de la prière dans la vie du chrétien. On ne peut pas, ou je devrais dire, on ne doit pas séparer la vie de prière de la vie du disciple. On n'est pas un vrai disciple si on ne prie pas. Tout comme on n'est pas un vrai disciple si on ne vit pas la Bible. Et j'allais dire TLJ. Vous savez ce que ça veut dire, TLJ? Tous les jours. Voilà, tous les jours. La prière et la lecture de la Bible. Je vais vous montrer une photo. J'ai vu ce que vous allez voir en descendant vers le midi il y a quelques semaines. Bien sûr, en tant que bon chrétien, je conduisais les deux mains sur le volant, les deux yeux sur la route. Et quand j'ai vu ce que je vais vous montrer, j'ai dit, Brigitte, avant de doubler, est-ce que tu peux prendre une photo? Un camion. Et c'est marqué dessus, peu importe le sujet ou l'objet, peu importe le moment, peu importe l'endroit, le propriétaire de cette entreprise promet de livrer n'importe quoi à n'importe qui et n'importe où et à n'importe quelle heure de la journée. Alors pourquoi est-ce que j'ai demandé à ma charmante épouse de prendre une photo de ça? C'est une parabole, une illustration de la prière. Hein? On peut prier, on peut parler à Dieu, peu importe le sujet. On peut parler à Dieu, peu importe le moment. On peut parler à Dieu, peu importe l'endroit. Il n'y a pas un endroit sacré en France, en Europe ou dans le monde. Votre lit, votre jardin peut être un endroit sacré quand vous priez Dieu à cet endroit-là. Whatever, whenever, wherever. Quel engagement de la part de ce patron. Mais quel engagement de la part du Seigneur. Peu importe le sujet, peu importe le moment, peu importe l'endroit. Je vais vous montrer une deuxième photo. Cette fois-ci, j'ai pris la photo il y a 10 jours. en Écosse, centre-ville de Glasgow. Et vous allez voir, peut-être pas tout de suite, que c'est aussi une parabole, une illustration de la prière. Vous êtes prêts? J'ai pas entendu. Vous êtes prêts? Bon, ça va, ok. Alors, je vais traduire. Bonne journée, bois du café. Mauvaise journée, bois du café. Journée à mourir d'ennui, bois du café. Journée intense, bois du café. Journée passionnante, bois du café. Envie de café, bois du café. Je n'invente rien. Alors pourquoi c'est une parabole de la prière? Bonne journée, prie. Mauvaise journée, prie. Journée à mourir d'ennui, prie. Journée intense, prie. Journée passionnante, prie. Envie de prier, prie. Vous avez compris. C'est formidable ce qu'on peut faire avec un appareil photo, enfin un téléphone, peu importe. Donc tout cela nous rappelle l'importance de la prière de façon quotidienne. Et j'aimerais juste vous rappeler que lorsqu'on prie, il y a quelques mots clés quand on prie. Le premier mot, c'est entrer. On entre dans la présence du Dieu trois fois saint. Et on doit se rappeler, ce n'est pas mon copain. C'est notre Seigneur, notre Maître, notre Dieu. Deuxièmement, on adore Dieu pour qui il est. Matthias en a parlé déjà ce matin. On remercie Dieu pour ce qu'il fait, pour ce qu'il nous donne. Ce matin, je lisais dans 1 Roi 4, 1 Roi 5, il est écrit, « Le peuple de Dieu à l'époque du roi Salomon, il mangeait, il buvait, il se réjouissait tous les jours. » Et je me suis dit, « Mais Seigneur, tous les jours, je mange, je bois. » Ne me cite pas hors contexte. Et je me réjouis. Et tout ça, ça vient de Dieu. Des bénédictions très terre à terre. Dans la prière, s'humilier. On s'humilie devant Dieu. Vous savez, Marie, la sœur de Marthe et de Lazare, on trouve à trois endroits différents dans le Nouveau Testament qu'elle est à genoux devant Jésus. Luc 10, Jean 11, Jean 12, à genoux devant quelqu'un. Marie connaissait sa place. Elle s'est humiliée devant Jésus. Et même si physiquement, on ne peut pas ou on ne veut pas se mettre à genoux, dans notre cœur, on peut toujours se mettre à genoux avec humilité devant le Seigneur. Cinquième mot-clé, intercéder. Intercéder, c'est-à-dire prier pour les autres. Et puis, sixième, demander pour soi. Parfois, on commence par les demandes personnelles. Je ne dis pas que c'est un ordre à respecter, mais c'est des éléments dont il faut tenir compte. Donc, la prière est importante. Et vous savez, Martin Luther, à ne pas confondre avec Martin Luther King du 20e siècle, Martin Luther du 15e siècle a dit ceci. Mon chien est plus enthousiaste devant sa gamelle remplie de nourriture que je ne le suis devant le trône de la grâce pour prier. Je ne savais pas qu'il avait un chien. Mais vous savez, nous on a eu un chien. 16 ans, il est mort. Mais devant sa gamelle, il était toujours enthousiaste. Devant une récompense, il était toujours enthousiaste. Notre chien savait distinguer les couleurs en anglais et en français. C'était un chien intelligent. Mais toujours enthousiaste. Mais jusqu'à quel point sommes-nous enthousiastes quand on se met à prier? Ou quand on sait qu'on devrait prier et on ne prie pas? Manger pour un chien est une priorité. Prier pour un chrétien devrait être une priorité. Je conclue donc. Il est important que chaque personne ici ce matin soit au clair en ce qui concerne la personne de Jésus et en ce qui concerne l'importance de la prière. Ce rappel dans ce texte ce matin nous rappelle justement et nous permet de bien saisir certains aspects de la personne de Jésus, sa véritable identité. Et ces trois versets nous rappellent aussi qu'on peut bien saisir la véritable définition ou nature de la prière. Un rappel qui est Jésus, un appel à prier. Est-ce que nous avons tous saisi ces deux vérités fondamentales? Que Dieu nous vienne en aide. Amen.
Merci David.